Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième année pour une nouvelle série de portraits d'artistes consacrés aux créations théâtrales depuis le Festival d'Avignon 2013. Aujourd'hui, nous recevons la compagnie Branle-Bas d'Art avec les comédiennes Caroline Delemontex, avec Juliette Auger-Lyon qui est régisseuse générale. On est avec Malena Perrault qui est metteuse en scène et on est avec Aurore Gaterias qui est chargée de presse. Et on parle de la pièce « Grand peur et misère du Troisième Reich » de Bertolt Brecht. On peut rappeler que c'est tous les jours au théâtre de Bourgneuf à 20h45. Et comme tous les jours, avant de commencer l'interview, nous allons écouter la chronique consacrée à ce spectacle. Portrait d'artiste. Grand peur et misère du Troisième Reich. L'époque historique au théâtre a certes toujours son importance, mais le vrai sujet ici est plutôt celui de la fabrique de consentement chez l'individu, ou comment presque tout un peuple peut adhérer jour après jour, centimètre par centimètre à une politique inique, juste par sa propre absence de volonté. Ainsi, en semant le doute et la peur en toute saison, le pouvoir repousse toujours plus loin l'apparition des germes d'un printemps d'opposition. Puis, il rajoute au cynisme de la pratique la caution du droit, faisant oublier de ses propres fonctionnaires zélés à ses citoyens pressurisés la différence essentielle entre légalité et légitimité, devoir et soumission. Partant de l'exemple terrible de l'avènement du Troisième Reich, Brecht démonte. La pièce illustre comment un régime politique finit par imposer l'inacceptable sans jamais édicter au départ de règles. Et ceci pernicieusement, par l'action de millions d'individus, pas nécessairement tous militants pour la cause, mais consentant par peur, espérant survivre en attendant leur tour d'être un jour coché du doigt. Pire encore, par conformisme ambiant. Et ainsi, pas à pas, la bête immonde progresse, s'installe partout, envahit tous les espaces privés, s'insinue au sein même des familles, semant la suspicion dans les cœurs. Elle finit par ne plus choquer personne, offrant au commun des mortels l'image rassurante de l'animal domestiqué. Elle banalise tout. De l'inégalité entre les humains à la persécution de quelques-uns, elle nous fait avaler l'horreur indigeste par petits bouts, c'est plus facile. Une cuillère pour garder son travail, une autre pour protéger son avenir, sa femme et ses enfants, et la dernière cuillère pour la bêtise et la jalousie contre son prochain. Cette obéissance aveugle, sans ordre, frise la perversion. Elle s'impose aux hommes par ces mêmes hommes, faisant d'eux une armée d'exécutants, inconscients de participer à la solution finale. Voilà une censure spontanée, sans besoin de censeur, chaque homme devenant son propre bourreau et celui de son voisin. La mise en scène des jeux d'acteurs sert admirablement bien le propos, démontrant par des tranches de vie presque ordinaires la mécanique implacable de la manipulation des masses. Nous sommes plongés en plein nazisme à Berlin ou à Cologne, parfois dans les arcanes du pouvoir judiciaire. Nous côtoyons des hommes et des femmes qui nous ressemblent, broyés par une machine implacable. Certains comprennent, esquivent la lame sans pourtant baisser la tête. D'autres résistent avant de finir hélas dans les camps. Mettre Brecht en scène, c'est prendre le parti de la distanciation avec l'histoire, celle avec un grand H, en s'intéressant aux petites histoires qui la composent. Sans froideur ni retenue, il faut néanmoins oser mettre le nazisme en scène, avec ses croix gammées et ses oriflammes rouges sang. Oser le salut nazi face aux spectateurs tout en restant limpide sur le propos. Oser ce grand plongeon hystérique par des costumes et des décors criants de vérité. Et garder pourtant une fraîcheur rare dans l'interprétation. Alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans des rues libérées il y a plus de 60 ans, des sons nasillards réenvahissent l'espace dans des manifestations qui distillent une peur pour tous. La compagnie du Branle-Bas d'Art l'a fait, avec une très grande justesse de ton, chapeau bas aux artistes militants.
Voilà, on se retrouve après la chronique sur le spectacle Grand peur et misère du Troisième Reich. Alors finalement, c'est un pur moment de théâtre, on pourrait dire. Alors, un pur moment de théâtre avec un grand T comme un pur texte également de Bertolt Brecht. Est-ce qu'on peut en parler déjà du texte et finalement de l'époque également ?
Oui, tout à fait. Ce texte, déjà, il faut savoir qu'il a été écrit dans le feu de l'action, puisque Brecht a fui l'Allemagne dès 1933, dès que Hitler est arrivé au pouvoir, et il a commencé à écrire ce texte à partir de 1935, donc très très tôt. Il a écrit ce texte à partir d'articles publiés dans des journaux de résistance, en fait, publiés par des expatriés qui avaient fui l'Allemagne, ou également par des témoignages qu'il avait pu recueillir, des lettres qui arrivaient à passer la censure, qui partaient de l'Allemagne. Donc ce matériau-là lui a permis en fait d'écrire cette pièce, qui est un recueil de 24 scènes, toutes différentes. On parle de toutes les tranches de la population, de 33 à 38. Et il a écrit donc, il a sorti cette pièce en 38 à Paris, donc avant même l'éclatement de la guerre. Donc c'est vraiment une pièce qui est une pièce d'actualité, en fait, puisqu'elle elle a pour but premier d'alerter l'opinion publique sur la politique de la terreur en Allemagne et effectivement les dangers d'une guerre imminente.
Mais finalement, elle était prophétique, hein, c'est ça le problème.
Oui, tout à fait.
Et alors, justement, Brecht, et vous appliquez ça aussi dans votre adaptation, c'est que l'histoire, c'est de montrer des petites histoires qui sont des scènes. Alors, on a quand même aussi un peu le milieu judiciaire, mais on voit beaucoup de scènes dans des familles, etc. Et on voit comment l'histoire se construit à l'échelle de l'individu.
Oui, effectivement, le propos même de cette pièce, c'est de parler de l'intimité, de ce qui se passe dans les maisons. Parce que donc, la pièce, comme vous l'avez bien dit dans votre chronique, effectivement, elle analyse les rouages de la dictature, les mécanismes qui se mettent en place. Donc Brecht, non seulement il parle de propagande du régime, mais surtout de la façon dont elle est vécue par donc, le peuple, puisque c'est lui qui permet aussi d'entretenir cette dictature qui se met en place. Effectivement, on a plein de petites histoires du quotidien des gens. C'est vraiment une pièce sur la vie. Comment vivre sous une dictature, sous la dictature hitlérienne, bien sûr.
Le propos que vous mettez aussi en scène, c'est de dire que sans le peuple, on ne pourrait rien faire.
Oui.
Et là, c'est fait par le peuple.
Oui, bien sûr, parce que la peur est tellement présente que même si on est fort, même si on résiste, on ne peut pas toujours résister. Il y a un moment où la mécanique est plus forte que l'être humain.
On rappellera que vous êtes la metteur en scène. Vous avez voulu justement faire vraiment du théâtre, c'est-à-dire avec des personnages, beaucoup des décors aussi, alors beaucoup de décors, des décors, on va dire, des costumes d'époque, tout ce qu'on voit de l'époque hitlérienne des années 30, je veux dire, c'est le Troisième Reich, c'est encore autre chose. Mais tous ces éléments relatifs, la croix gammée, et donc du coup, c'est un théâtre qui est très détaillé également. Il y a beaucoup d'éléments, il y a des accessoires aussi, il y a des affiches qu'on colle à chaque scène, pratiquement sur un tableau.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le mur des affiches, j'ai voulu l'intégrer au spectacle pour montrer justement le processus de nazification qui se met en place. Il faut savoir que les scénettes, donc, sur les 24 scènes qui composent le recueil, moi j'en ai monté 7. Donc 7, c'est vraiment petit par rapport à l'ensemble de la pièce. Ces scénettes, elles ne sont pas classées par ordre chronologique dans la pièce. Moi, je les ai remises dans l'ordre chronologique justement pour montrer au fil du temps, au fur et à mesure où les années passent, comment le peuple change, comment les rapports entre les êtres humains arrivent à être mangés en fait par ce nazisme. Donc les affiches, effectivement, oui, elles ont aussi un aspect didactique. Le théâtre brechtien est souvent didactique. Donc elles permettent vraiment d'introduire chaque scène. Elles renvoient aussi une image assez forte.
Elles ont un aspect réaliste également. Elles montrent que c'est un théâtre réaliste.
Exactement.
C'est vrai que le fait de remettre ça dans le chronologique, il y a une montée dramatique qui se fait parce qu'il y a une voix à chaque fois qui annonce la date, le lieu,
oui,
le mois également. Et donc on sent que tout s'accélère.
Tout à fait.
Alors pour une fois, c'est rare qu'on ait autour de la table une régisseuse avec nous, hein, qui est Juliette. Alors Juliette, vous êtes régisseuse générale parce qu'une petite troupe... Une troupe jeune comme la vôtre n'a pas les moyens d'avoir un régisseur pour le son, la lumière, etc., les costumes.
C'est exactement
ça. C'est un très gros travail, la régie sur un spectacle de ce type.
Oui, c'est un gros travail de fluidité des gestes, surtout. Savoir exactement ce qui va se passer après pour ne pas louper son top. Mais non, on s'en sort. Mais un jour, quand on sera super produit, on aura peut-être 3 régisseurs.
Oui, parce qu'il y a un changement de costume où il y a donc des acteurs, des actrices, comédiens, comédiennes, qui font plusieurs rôles, bien sûr. Et donc, il faut que les changements de costumes se fassent au bon moment.
Les choses, oui, bah, c'est eux qui s'en occupent, ça.
Ah oui, 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 vous n'êtes pas là pour les aider.
D'ailleurs, c'est un
moi,
peu
moi, je
le...
suis derrière la console lumière, son et derrière la vidéo. Mais après, les costumes, c'est ils se débrouillent. Si j'avais le don d'ubiquité, peut-être que je ferais habilleuse, mais...
Donc là, alors, ils sont autonomes sur leur changement de costume.
Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs un peu le... Enfin, le nom de notre compagnie vient de là, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on joue tous plusieurs rôles. Dans les coulisses, c'est vraiment le... Les comédiens sont sur le pied de guerre, vraiment.
Oui, mais c'est pas le branle-bas des arts, c'est branle-bas de combat chez vous.
C'est ça. Alors, ça part de là. Branle-bas d'art, c'est branle-bas de combat, bien sûr, mais pour défendre les arts. C'est sûr qu'en coulisses, chaque accessoire doit être bien à sa place, parce que, comme vous dites, on a beaucoup d'accessoires. On joue tous en moyenne entre 3 et 6 rôles. Donc... Vraiment, c'est organisé avec la précision militaire, on peut le dire. Les changements de costumes se font vraiment comme si on changeait de fusil d'épaule.
C'est quand même très millimétré, c'est très carré, parce qu'il y a un rythme aussi très soutenu, c'est-à-dire qu'on n'a pas des grands changements de scène, hein, c'est très rapide. Il y a un rythme qui doit être gardé tout le temps, finalement. Il y a des tensions, bien sûr, il y a un déralentissement, mais il y a quand même un rythme qu'il faut garder tout le temps.
Oui. Bien sûr, le rythme est très important. C'est une pièce qui est très vivante. Le challenge de monter cette pièce, c'est effectivement d'arriver à avoir un ensemble fait de petites scènes. Si les changements sont trop longs entre les scènes, on a le risque de perdre le spectateur. Donc il faut vraiment maintenir cette tension présente.
Et perdre la cohérence du propos également, j'imagine.
Exactement.
Voilà. Parce que vous voulez donner des éclairages successifs qui sont un peu des clichés, on va dire qu'on met la lumière sur une scène dans une maison,
oui,
dans tel endroit.
C'est vraiment des tableaux.
C'est des tableaux, c'est vraiment des tableaux, voilà. Et donc les tableaux doivent se succéder pour faire finalement un film fait d'images successives.
Voilà.
Pour ce qui est des comédiennes, le rôle des comédiennes est intéressant aussi. Comment on arrive à passer d'un personnage à l'autre aussi rapidement? Il faut arriver à s'incarner pratiquement dans l'instant. Parce que les personnages sont très différents quand même aussi.
Mon premier changement de personnage, en fait, il consiste à passer d'une femme de chambre à une greffière, et puis donc d'une femme de chambre qui ne comprend pas comment son petit ami Essa est devenu aussi différent, comment est-ce qu'il a changé autant en si peu de temps, parce qu'il a été embrigadé par les SA. Puis ensuite, donc, je passe à une greffière qui est un peu la fille du nazisme. Voilà.
Le monstre.
Qui est une militante, voilà. Qui est... Voilà,
ouais. Et donc, c'est vrai que j'ai quelques secondes pour passer de l'un à l'autre, mais du coup, c'est le travail du comédien de pas réfléchir et de se lancer, et puis de passer d'un état à un autre rapidement. C'est vrai que voilà, je suis à la fin de la scène du SA, je suis en pleurs parce que complètement à bout de nerfs. Et ensuite, j'arrive au contraire comme une furie un peu. Donc oui, on réfléchit pas en fait. On passe de l'un à l'autre.
C'est une pièce qui demande beaucoup d'énergie en fait. On sort de scène, on est vidé, effectivement. Beaucoup, beaucoup d'émotions, on donne beaucoup de nous-mêmes. Je joue la femme juive, qui est une scène qui est très, très dure.
Qui doit partir, qui doit quitter l'Allemagne. Donc, voilà.
Exactement, qui choisit de quitter l'Allemagne pour épargner en fait son mari qui est à rien. Et elle se rend compte qu'elle commence à être un fardeau pour lui. En fait.
Un risque même, voilà.
Et un risque, exactement.
Alors pour elle, de façon évidente, mais pour lui aussi, finalement. Et on voit toute cette contradiction également qui peut se glisser dans les familles. Alors à la fois aussi les jeunesses hitlériennes qui commencent à embrigader les enfants et les parents commencent à se méfier de leurs propres enfants. C'est vrai que ce système, il est pernicieux parce qu'il rentre à l'intérieur des liens familiaux, à l'intérieur des liens de sang, on va dire.
C'est sûrement le point le plus fort de la pièce, la scène du mouchard, d'avoir à se méfier de ses propres enfants. Et malheureusement, c'est arrivé très très souvent que des enfants dénoncent leurs parents sans s'en rendre compte, parce qu'ils ont été abusés par des adultes aux jeunesses hitlériennes qui leur disaient « il faut que tu nous racontes tout ce qui se passe à la maison ». Et sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient, ils ont envoyé leurs parents en camp de concentration. Malheureusement, c'est arrivé très souvent. C'est bien sûr écrit par Brecht, poussé à l'extrême, ça en devient risible. C'est un moment, une scène où on rit beaucoup dans le spectacle, mais c'est qui donne froid dans le dos en même temps.
Alors, vous avez choisi de jouer la pièce, finalement, fidèle à sa création, Année 30, mais on imagine qu'un tel texte fonctionnerait également avec une mise en scène complètement contemporaine, puisque les thèmes que vous développez, qui est la fabrique du consentement, on le connaît dans toutes les dictatures, mais hélas, on le connaît aussi dans les démocraties. Hein, on le connaît sur les problèmes, par exemple, on sait des OGM, on est sur les gaz de schiste en ce moment, et on voit bien que certains types de journaux, de communication gouvernementale fabriquent le consentement. Et donc c'est un thème tout à fait actuel.
Tout à fait.
Et donc il a une portée toujours très contemporaine.
Oui, oui, bien sûr. J'ai effectivement tenu à rester sur des costumes années 30 parce qu'on parle quand même de l'histoire. Mais il y a beaucoup d'aspects aussi dans la mise en scène qui font référence, en tout cas j'espère que le public le voit, s'en rend compte, à notre société actuelle. J'ai intégré de la musique électronique, j'ai intégré de la vidéo, des points de vue de distanciation. Il y a un moment, le petit garçon Henri allume la radio et on entend une musique très contemporaine qui était en fait un rock néo-nazi.
Un rock néo-nazi,
tout à fait. C'est une fraction de seconde, mais ça, ce sont des clins d'œil à l'actualité. Mais effectivement, on peut élargir le propos. On parle de dictature et il n'y a pas que la dictature hitlérienne. Bien sûr, il y a plein de points communs avec notre situation actuelle.
Actuelle, tout à fait.
Tout à fait. On parle beaucoup de la crise économique dans les médias, on parle de la montée du chômage.
Et là, on est dans des scénarios qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'on est dans une
Exactement.
Crise économique qui est très très forte, le chômage monte.
Les extrémismes politiques montent
tout
également,
à fait.
Ce
ouais.
qui va de pair. Ouais. Donc c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de reproduire les mêmes erreurs. L'antisémitisme, il est peut-être moins fort aujourd'hui, mais on a, pour compenser...
On en a d'autres,
voilà, on a l'islamophobie
oui,
ambiante.
Voilà.
Donc bien sûr, on renvoie avec cette pièce, on renvoie un miroir.
Et alors d'ailleurs, la fin de la pièce, qu'on ne révélera pas, mais c'est vraiment le cri de militants. Vous êtes une compagnie qui appliquait le théâtre un peu brestien aussi, d'un théâtre militant, d'un théâtre aussi qui a une forme d'opposition, mais sous forme jouée. Vous cultivez ça ou c'est encore une discussion entre vous ?
C'est une discussion entre nous. C'est-à-dire on n'est pas politique.
C'est pas un théâtre ouvrier comme on a connu à une époque ?
Non. Cette pièce, elle me tenait vraiment à cœur. J'ai eu le coup de foudre pour ce texte, je voulais le défendre. Mais on n'est pas une troupe militante.
Oui, parce que c'est un spectacle, en plus, dans lequel il y a de l'humour noir, il y a de l'humour aussi, et c'est une vraie pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est une prise de tête. Bien au contraire, vous avez réussi, un sujet difficile, de faire une vraie pièce de théâtre, où on change d'époque,
qui est accessible. Qui est très accessible.
Exactement, ouais. Voilà. Et qui n'est pas moralisatrice non plus, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous donnez les clés aux gens de les décoder et...
Voilà, c'est ça. De toute façon, le texte ne juge pas, en fait. Il propose une vision. Bien sûr, il influence quand même le spectateur. C'est le propos de toute pièce de théâtre. Enfin, c'est une pièce qui est très humaine, qui porte un regard très humain. Voilà, c'était aussi le challenge de mettre en scène la dictature, que je n'ai pas vécu sous la dictature, donc comment s'emparer de ce thème. Et tout en ayant conscience des forces et des faiblesses des individus dans un contexte économique, social et politique donné, comment mettre en scène ce processus de nazification.
Parce qu'on oublie vite, moi-même j'ai redécouvert finalement, on connaît ces thèmes-là, mais on les redécouvre de façon très cruelle. Caroline, vous êtes jeune et c'est une époque que vous n'avez pas connue comme moi non plus, on n'est pas nombreux à avoir connu cette époque, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont encore connu cette époque d'ailleurs. C'est impressionnant quand même pour vous aussi, vous découvrez toute l'horreur au quotidien, la pression psychologique qui s'est...
Mais oui, c'est pour ça que je trouvais cette pièce très intéressante, parce que c'est vrai que je trouve qu'elle montre le fonctionnement de l'humain, en fait, jusqu'où on est capable d'aller dans certaines circonstances. Et en toute époque, il y a ce risque parce que l'humain est influençable. Et donc, je trouve ça intéressant. Moi, je suis fière de montrer justement ce qu'a été l'histoire, d'être en quelque sorte porte-parole de l'histoire. Et c'est vrai que voilà, j'avais un arrière-grand-père qui était juif et qui s'est converti au catholicisme peu de temps avant la guerre. Je crois par conviction, mais j'en suis pas certaine. Peut-être qu'il avait senti...
Par prudence.
Peut-être par prudence. Et je me dis, voilà, qu'est-ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas fait? Et voilà, c'est quelque chose qui me touche.
Donc il y a quelque chose également de généalogique dans votre interprétation. Il y a aussi un hommage à ce grand-père aussi.
Oui, en ouais. quelque sorte, j'y pense, oui.
Ouais. C'est pas souvent qu'on interview l'attaché de presse, mais là, on pourrait lui demander une question. J'ai une question qui me taraude depuis l'année dernière. Vous étiez au Théâtre Carnot l'année dernière et vous faisiez des parades. Et des parades en costume néo-nazi, c'est quelque chose. Et du coup, je me suis posé la question si cette année vous en faisiez encore, je ne vous ai pas vu en faire. Parce que quand on n'a pas vu le spectacle, on n'est pas dans la salle, il est possible qu'on interprète mal une parade néo-nazie.
Aussi forte.
Pas néo-nazie, nazie pour
non,
le
non,
coup.
Non, pas néo-nazie, voilà.
Vraiment
pas néo-nazie. C'est un choix sur les spectacles, en fait. Quand on parade, c'est une manière de raconter une histoire, de re-raconter l'histoire pour donner envie de voir. L'année dernière, c'est une petite provocation aussi. C'est une manière de montrer les choses. Dans la pièce, la mise en scène fait qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Il y a les croix gammées, les étendards rouges, noirs et blancs.
Les saluts nazis.
Les saluts nazis. Voilà. Elle n'avait pas fait l'opinion de tout le monde, cette parade.
Mais elle a fonctionné, puisqu'on a
Mais
eu
elle a fonctionné, voilà. C'est une manière de communiquer aussi sur un spectacle.
Un peu en provocation, finalement.
Un peu en provocation. Mais cette provocation, elle peut être bonne aussi, pas seulement pour faire venir du monde, mais pour interroger toujours le spectateur.
Pour faire réagir les gens, surtout.
Voilà.
Et cette année, vous l'avez fait la parade ou pas ?
Cette année, il y en a une, mais pas de la même manière. Cette fois-ci, c'est les ouvriers qui prennent finalement la parole, qui sont les résistants de l'histoire. Et donc, ce sont eux qui tractent tout le long de la journée.
Alors, on porte, effectivement, on est en tenue. Bah, comme on...
Oui, voilà, j'ai vu ça. Vous êtes en tenue bleue,
Exactement, parce qu'on s'apprête à aller tracter juste après l'interview. Donc, on a une radio avec nous qui...
TSF ? Non, une vraie radio ?
C'est une radio brechtienne, c'est-à-dire un carton.
Ah, d'accord. Oui, alors, on ne le voit pas à l'antenne, mais on va le décrire.
Voilà, exactement.
Ah, une radio, c'est marqué radio dessus. Et puis trouve, c'est une radio symbole.
Voilà. Voilà. Et donc, qui diffuse un discours de Charlie Chaplin qui imite Hitler.
Ah oui.
Donc, on a toujours ce même propos d'interroger les gens parce qu'ils reconnaissent ce discours qui
les choque parfois. Ils ne le reconnaissent pas au premier abord.
Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils entendent parler en allemand, ils entendent que, effectivement, ça ressemble beaucoup à Hitler et on les voit s'interroger pendant une fraction de seconde, mais est-ce que c'est Hitler ? Est-ce que... Non, quand même pas. Hitler dans Avignon, dans les rues d'Avignon, c'est pas possible. Et puis finalement, il y a tout de suite le rire qui arrive, qui est libérateur, qui dit « Ah non, c'est Chaplin ». Voilà.
C'est d'autant plus difficile, j'imagine, parce que pendant la pièce, il n'y en a jamais un doute. C'est-à-dire que vous êtes très juste en propos et on n'a jamais le doute. On a bien compris le propos de la pièce et l'ensemble des éléments qu'on voit qui sont très réalistes ne font pas hésiter sur le propos, justement. Donc c'est vrai que c'est une pièce, on est dans un espace clos, on est avec vous, alors que là, sur une parade, c'est vrai qu'on fait souvent que passer.
Oui.
Donc l'exercice est toujours beaucoup plus difficile.
Il faut marquer.
Mais par contre, il faut marquer les esprits.
Oui, surtout à Avignon, où il y a 1300 spectacles qui se jouent en même temps. C'est vraiment une jungle.
Mais vous êtes quand même un spectacle à part, on va dire, sur beaucoup de spectacles. C'est-à-dire que vous êtes sur un classique.
Oui.
Mais c'est pas du Molière.
Non, c'est ça. Mais justement, c'est un sujet sur le totalitarisme. C'est assez difficile aussi dans un festival comme Avignon, parce que disons que les gens sont de passage. Il y a différents types de publics. Il y a un public qui va aller voir du Brecht juste parce que c'est du Brecht. Ça, pour nous, c'est gagné. C'est pas beaucoup de travail à faire là-dessus.
Il y en a qu'un, je crois, de Brecht. Ah, il y en a deux. D'accord.
Mais beaucoup de publics sont là de passage et ils veulent juste s'amuser.
Ah oui.
Donc comment faire la pub, entre guillemets, d'un spectacle tel que le nôtre auprès de ce genre de public qui souhaite s'amuser ?
Après, le terme de divertissement, il peut être très large, c'est-à-dire divertir en s'instruisant. C'est quand même l'idée de beaucoup de grands maîtres du classique.
Notamment, c'est le propos de Brecht.
De Brecht, voilà, exactement. Hein, le théâtre populaire, c'est ça aussi. Hein.
C'est ça.
Prendre aux gens qu'on peut aller voir un spectacle tel que le nôtre, Grand Peur et Misère du Troisième Reich, pourtant le titre fait peur. Mais on passe un bon moment, on s'amuse, parce que c'est un spectacle qui remue beaucoup de choses, qui est très riche en émotions, qui touche et qui en même temps est drôle à plein d'égards.
Et qui passe très vite. Hein.
Et qui est intelligent.
Et qui est intelligent. Alors, vous avez tout dit. Hein.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour ces confidences de coulisses hein, qui sont un peu une deuxième lecture du spectacle. Nous recevions la compagnie Branle-Bas d'Art et avec Juliette Auger-Lyon, régisseuse. On avait Caroline Delemontex, comédienne. On avait Or Gaterias, chargée de communication. Malena Perrault, qui était metteur en scène. On parle bien sûr de la pièce Grand Peur et Misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht. C'est encore tous les jours jusqu'à la fin du festival Théâtre de Bourgneuf à 20h45. Merci au restaurant Le Cul de Poule, place des Carmes. Nous accueille tous les jours à 17h pour ses plateaux radio. Merci également à l'organisation du Festival Off pour le soutien à ses créations radiophoniques au cœur de l'été. Cette émission produite par À la Marche Productions, texte et présentation Thierry Gauthier. Merci à vous et bon festival.
Merci.
Merci.